Le 2 février dernier, le conseil de ville de la ville de Magog s'est réuni. Nous avons pour nous en parler la mairesse Vicky Mayhem. On va commencer avec vous par une affectation. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé, mais comme la somme est quand même considérable, ça frappe l'imagination. On parle ici $1 million qui vont être, qui sont désormais en fait réservés pour la maison Mary, pour la refonte finalement de la maison Mary. C'est la première étape du projet.
Oui, exactement. Donc, on a annoncé il y a quelque temps déjà que le projet en tout coûterait 3,5 millions. Il y a 1 million qu'on affecte à même nos surplus libres. Donc, c'est ce qu'on a fait cette semaine. On a réservé ce million-là. Il y a un peu plus d'un million qu'on espère aller chercher en demande de subvention et on attend déjà quelques réponses. Et le reste, on souhaite mobiliser la population et faire une levée de fonds.
À l'heure où il me semble qu'au niveau des subventions, là, donc qui dit subvention dit gouvernement provincial, fédéral, il y a des coupures un peu partout. Le prix du pétrole qui baisse en Alberta, là, le gouvernement conservateur s'en va vers un déficit, il s'arrache les cheveux en année d'élection. Est-ce qu'on est vraiment optimiste d'aller chercher une subvention de l'ordre de 1 point quelques millions auprès de ces deux paliers de gouvernement-là là, dans le contexte actuel?
Aussi curieux que ça puisse paraître, oui, parce qu'il y a des programmes qui n'ont pas été affectés au niveau du patrimoine puis de la culture. Puis il y a des programmes qui existaient au niveau des infrastructures qui présentent plus de flexibilité maintenant pour aussi inclure des projets culturels et patrimoniaux. Alors nous, on pense que oui, les programmes sont bien ciblés puis on pense que c'est encore possible.
À terme, avec ce projet-là de la Maison Mary, bon, on parle d'un projet culturel qui va parler de l'histoire de la région et tout ça. On a des artefacts qu'on a trouvés qui sont probablement fort précieux. Mais en même temps, tout ça, bon, ça coûte cher à faire et ça coûte cher après ça à entretenir. Comment est-ce qu'on a ficelé le budget aussi si on regarde dans 5 ans, dans 10 ans, pour garder cette maison-là en bon état et si jamais le nombre de visiteurs n'est pas présent, là?
Bien là, j'espère que le nombre de visiteurs va être présent, mais on a fait un bon plan d'affaires avec une firme externe pour regarder ce qui se faisait ailleurs, les histoires à succès, puis on a insisté pour qu'il y ait un modèle de revenu inclus, que ce soit la location de salles, la vente d'objets promotionnels, etc. Alors, on pense qu'il y a un modèle de revenu qui va faire en sorte que diminuer l'impact sur les frais récurrents, parce que ça, c'était une de nos préoccupations. Puis on a été très conservateurs dans l'achalandage quand on regarde ce qui se fait partout au Québec.
Parfait. Alors, le projet est à suivre. Au niveau de l'échéancier, qu'est-ce que vous espérez là, au niveau des subventions et puis des levées de fonds que vous allez faire? Là, quand est-ce que les travaux devraient commencer? Là, évidemment, toujours avec le bémol de « on ne sait jamais parce qu'il faut aller ramasser l'argent avant », mais l'espoir, là, ce serait quoi?
Bien, écoute, on espère avoir des réponses cette année pour certaines subventions, ce qui veut dire qu'on pourrait commencer les travaux d'après moi en 2016, mais ça va dépendre aussi là, de la vitesse là, pour les réponses des subventions, mais aussi pour la levée de fonds parce qu'on commence à rencontrer des gens pour la levée de fonds.
Est-ce que pendant ce temps-là, la maison Mary se détériore tranquillement, se dégrade et pourrait faire en sorte qu'au final, les travaux pourraient coûter plus cher juste à cause de ce délai-là?
On fait un minimum d'entretien. Puis il y a des travaux qu'on doit faire cette année, là, minimum d'entretien qui ne seront pas à refaire. Parce que sinon, effectivement, dans les dernières années, elle s'est dégradée puis les gens l'ont remarqué. Puis on a quand même payé ça 1,2 million. Fait qu'on ne laissera pas pourrir debout.
Très bien. Un autre point qui a été abordé et qui soulève question un peu partout présentement en Estrie, c'est ce point autour de la Société protectrice des animaux. Les frais de la SPA ont augmenté considérablement. Ici à Magog, si on recule de, bon, il y a quelques années en arrière, là, on n'a pas l'année exacte, mais on peut dire que ça a doublé là, au cours des dernières années. On en est rendu maintenant avec un contrat de $70,229.10 très exactement pour le contrat de cette année. Donc, il y a quelques années, on était à 35 000. Certains citoyens se posent la question, là, est-ce que ça va continuer de doubler comme ça? Est-ce que ça va continuer d'augmenter? Et est-ce qu'on en a pour notre argent?
Effectivement, puis on n'oublie pas qu'ils ramassent tout l'argent des licences pour animaux aussi. Alors, ça représente plusieurs milliers de dollars, ça aussi. C'est pour ça qu'on a un contrat juste d'une année, parce qu'on va vouloir renégocier un contrat avec eux, puis on se pose exactement les mêmes questions au conseil. On en a-tu pour notre argent? Ce serait quoi qui ferait qu'on en aurait plus pour notre argent? C'est-tu trop cher? C'est quoi les autres options? Parce que moi, je ne suis pas persuadée qu'on en a pour notre argent. Ça fait que ça vaut la peine là, qu'on se penche là-dessus.
Les autres villes semblent satisfaites, cela dit. En tout cas, je n'ai pas entendu personne rechigner vraiment. Quand je fais des entrevues, par exemple, avec le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, avec Sainte-Catherine-de-Hatley, ici à côté, bon, les maires me disent, écoute, si on ne le payait pas là, il faudrait le payer à l'interne. Est-ce que vous pensez que un service à l'interne à Magog serait moins coûteux que ce fameux 70 000 $?
Est-ce que c'est à l'interne? Est-ce que c'est à une autre entité? Je le sais pas, mais on en a... Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, hors d'ongle, hors ondre, que on peut pas avoir de problème de chien le soir et la fin de semaine parce que eux autres, c'est des heures de bureau de 8h30 à 4h30. Je donne ça comme exemple. Alors, peut-être que ce sera aussi juste de renégocier un contrat qui répond plus à nos besoins. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on a besoin d'une campagne de sensibilisation parce qu'on a des problèmes particuliers. Donc, je pense qu'on n'a juste pas pris le temps de bien définir nos besoins puis de s'assurer que l'argent est bien investi.
L'argent va être investi aussi du côté d'une nouvelle application. C'est pour les téléphones intelligents, évidemment. On parle de l'application Vox Populiz. C'est une nouvelle compagnie, une nouvelle entreprise qui s'est établie ici, qui a lancé quelques applications comme ça. Et donc, Magog encourage la dite compagnie, mais se donne une belle visibilité avec ça en même temps. Qu'est-ce que c'est exactement là, que cette application Vox Populiz?
Oui, effectivement, MobiView, qui est une entreprise française qui s'est installée ici, a lancé 5 applications qui vise davantage les touristes, les visiteurs, dont un qui s'appelle Vox Populiz. Puis c'est cette application-là, c'est pour sonder, c'est un Vox Pop. C'est pour sonder les gens sur l'accueil, l'hébergement, la qualité de la restauration, etc. Puis nous, on a pensé que la meilleure vitrine pour nous, ce serait d'acheter une publicité. Donc, quand les gens vont ouvrir l'application, c'est une publicité sur la ville de Magog qu'ils vont voir.
Et bon, ce sondage-là, après, il sert à qui? Bon, on pose des questions à tout le monde qui passe par ici. Est-ce que la ville a accès aux informations qui sont colligées dans le sondage en question?
Effectivement, il va y avoir un modérateur embauché par MobiView parce que ce ne sera pas une séance de lavage de linge sale non plus. Donc, il va y avoir un modérateur. Mais ça s'adresse davantage à l'industrie touristique. Donc, c'est des choses qu'on va regarder avec le comité touristique à tourisme au CLD Tourisme. C'est plus le CLD, c'est pour ça que je m'enferme parce qu'on ne sait plus comment ça va s'appeler. Mais la prochaine entité touristique, là, va se pencher là-dessus. Donc, ça vise surtout ça. Mais effectivement, il y a certainement des recommandations qui vont atterrir sur le bureau de la ville aussi, là.
Et qui décide des questions à poser? Est-ce que ce sont les commerçants? Est-ce que c'est le comité touristique? Comment est-ce qu'on va construire finalement ce fameux sondage et le renouveler aussi dans le temps, là?
En fait, c'est des catégories, des grandes catégories. Donc, mettons, hébergement, activité, attrait, lac, montagne. Et dans les catégories, tous les commentaires et suggestions sont les bienvenus.
On continue à parler de web, mais cette fois-ci pour ce qui est du site web de la ville de Magog, un site web qui avait besoin d'un rafraîchissement et on a finalement octroyé le contrat lors de la dernière séance. Ça tombe bien parce que c'est une compagnie de la région qui obtient le contrat, Communication Standish, pour 38 000 $. 38 000 $ pour un site aussi gros que celui de la ville, évidemment. Bon, ceux qui connaissent les prix savent que c'est dans les prix, mais quelqu'un pourrait facilement sursauter là, en se disant, ben voyons donc, un site web, ça se fait gratis avec WordPress.
Oui, mais ils n'ont pas la complexité qu'on a. En fait, nous, on se retrouve actuellement avec un site web qui est très déficient. Toute l'information est là, mais vous n'êtes pas capable de le trouver. Les gens se découragent. Il n'y a pas de moteur de recherche. Juste un moteur de recherche performant, là, c'est ça qu'on veut. On veut que le citoyen qui cherche une information X soit capable de le trouver rapidement, qu'il ne se décourage pas après 3-4 clics. Donc, on a pris une année complète avec un spécialiste pour réfléchir à l'architecture de notre site. Qu'est-ce qu'on voulait comme information? Comment là, on veut que la personne navigue? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Là, etc. Puis je pense que le fait qu'on a bien préparé le travail fait en sorte qu'on se retrouve avec un prix qui, à mes yeux, est pas cher pour la complexité de notre site.
Et quand on regarde les autres soumissionnaires qui étaient là, bon, il y en a que ça allait là, pour le même site web jusqu'à 69 000 $, donc à 38 000, on est pratiquement là, de moitié en bas de ce qui était offert par d'autres firmes finalement. Donc, un travail là, qui devrait commencer donc, dans les semaines à venir au niveau de la programmation. Évidemment, ça va prendre quelques mois, peut-être voire même un an avant que le nouveau site soit en ligne.
On se donne l'année parce que les gens n'ont pas idée du travail qu'il y a à faire, que ce soit juste au niveau des textes d'introduction pour chaque page, le choix des photos. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire au cours de la prochaine année.
On termine avec une modification au schéma de la ville de Magog en ce qui concerne les banderoles, les oriflammes. On parle ici des banderoles et oriflammes des commerçants, comme par exemple ces oriflammes qu'on voit là en bordure de rue lorsqu'il y a un concessionnaire de voitures et qui annonce là, les spéciaux à venir, comme si les automobiles étaient toujours en spécial. Alors, il faut les croire, j'imagine. Banderoles et oriflammes qui étaient normalement interdites sur le territoire. Maintenant, on les permet, mais on les réglemente. C'est quoi la différence là, entre ce qui est interdit et ce qui est permis là, maintenant?
Bien, en fait, actuellement, ce n'était pas permis du tout sur le territoire, sauf qu'on n'appliquait pas la réglementation. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait une forme de tolérance, là, mais si vous allez sur la rue Sherbrooke à Magog, vous allez voir que plus de la moitié des commerces en ont des bannières et des oriflammes, mais on n'a pas d'inspecteurs qui font la police. Alors, ce qui arrivait, c'est que là, les commerçants se plaignaient, puis quand il y avait une plainte, là, l'inspecteur était obligé d'intervenir. Fait qu'il y en a qui se faisaient interdire les oriflammes, alors que ses voisins en avaient, ça créait toute une problématique. Nos commerçants nous disent qui ont de la misère, ils ont besoin de se publiciser, qui ont besoin de faire ça. Alors nous, on veut leur permettre, mais en l'encadrant.
Est-ce que les fameux inspecteurs de la ville qui n'avaient pas le temps d'appliquer l'interdiction vont être capables d'appliquer le nouveau règlement avec les nouvelles dimensions qui sont permises, là, parce que vous ne voulez pas non plus permettre n'importe quoi?
Ce sera pas plus simple, mais en partant du fait que c'est permis, que la nouvelle réglementation est connue, moi, je pense que la plupart des gens vont se conformer à la nouvelle réglementation, mais ce sera pas plus simple à appliquer, j'en conviens. Si on voulait vraiment alléger le travail des inspecteurs, on n'en aura pas de réglementation. Mais là, c'est pas pour rien que le vote a été demandé dans ce dossier-là. On veut pas non plus qu'il y ait une prolifération de bannières puis tout ça, parce qu'il y a une question d'esthétique et de visuel aussi. Alors, on n'a pas le choix de réglementer puis d'espérer que les gens vont se conformer puis qu'ils vont voir de là aussi l'ouverture de la ville à leur donner un coup de main. Si chacun fait son bout de chemin, je pense que ça devrait bien aller.
Alors, dans ce qu'on a permis, là, on a réglementé la grandeur des oriflammes en question, des banderoles. Est-ce qu'il y a des règlements au niveau de la couleur, au niveau de la luminosité, par exemple? Parce que certains pourraient être tentés là, de transformer la rue Sherbrooke en mini Las Vegas, par exemple, là, avec des belles petites lumières partout la nuit ou des choses comme ça pour attirer toujours plus l'attention.
En fait, il n'y a pas de lumière. C'est des bannières et des oriflammes, c'est du tissu, c'est mobile. Premièrement, c'est temporaire, c'est rien de fixe qui est permis, premièrement. Donc, c'est des promotions, des affaires temporaires. Deuxièmement, ça va être une quantité limitée par commerce à deux. Oui, on suggère des grandeurs maximum. Puis, il y a un tronçon de la rue principale qu'on a exclu du règlement parce qu'on veut que ça fasse partie de la réflexion de la revitalisation du centre-ville. Puis, on ne voudrait pas deux bannières par commerce à la rue principale, on aura un problème. Donc, on l'a exclu. Mais il y a une prochaine étape à franchir. Ça demande une modification au schéma d'aménagement de la MRC. Et c'est ce qu'on fait la demande. Là.
Parfait. Donc, un dossier à suivre. On aura la réponse officielle dans les prochains mois. Vicky Méham, mairesse de Magog, merci bien de votre collaboration. On se retrouve dans quelques semaines. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.